La guerre commerciale s'est intensifiée entre les États-Unis et la Chine et conséquence directe de ça, Pierre-Yves, très, très, très mauvaise journée en bourse.
Oui, 2,44-45% sur le S&P 500 aux États-Unis, Paul. Et là, hein? Évidemment, si on regarde ça d'un côté froid, là, ça veut dire quand vous avez 100 000 $ dans votre portefeuille de retraite, vous voyez, vous avez une perte là, de 2 500 $. C'est énorme à l'œil. Mais si on regarde le sommet qu'on avait atteint au S&P 500, on était rendu à 2930 points et plus. Là, donc, là, retomber après 2800 points, c'est quand même pas une catastrophe après la descente de l'automne dernier. Même le TSX, encore là, c'est intéressant. Le TSX a chuté beaucoup moins, à moins de 1%. Donc, d'un côté, tu as l'Américain qui a plus d'impact, tu as ton dollar qui a une variation, mais en ayant un portefeuille balancé dans les deux pays, ça vous donne une diminution. Même chose au niveau de la diversification du risque du portefeuille. Les gens qui ont des bons du trésor ou qui ont du marché monétaire en attendant se retrouvent maintenant avec une capacité d'investir à la bourse alors qu'il y a peut-être des opportunités qui se présentent. Tu sais, les gens bien aguerris en bourse là, puis qui regardent ça depuis longtemps, quand ils voient des choses comme ça, ils sourient un peu parce qu'ils se disent « Ah, quand il y a une petite décote, je prends mon marché monétaire puis j'en remets dedans. » Un bon exemple, c'est Alphabet, donc Google. Beaucoup de gens voient l'action à 1300 à 1400 $ sur 12 mois. Alors, quand elle baisse, comme aujourd'hui, de près de 3%, ben, tu te dis, ah, voici une occasion d'achat. Donc, les gens qui achètent systématiquement la courbe, c'est-à-dire à chaque mois, oui, payent des fois le haut de la courbe, mais profitent, comme aujourd'hui, des fois d'une baisse. Et ainsi, ça fait un portefeuille très équilibré pendant ce temps-là. Uber, qui est rentré en bourse vendredi, est rendu à 37 piastres.
Wow.
37 piastres américains. Quand on était à 45 au prix d'ouverture, en souhaitant que ce soit un bas prix qui générait de la demande. Mais là, on se retrouve avec, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec des investisseurs qui sortent. On se retrouve avec des spéculateurs qui ont pas fait d'argent. On se retrouve avec des institutionnels qui investissent à long terme. Donc, ça prendra plusieurs mois avant de se dire, ah, Uber, voici un placement que je comprends. Rendement, évolution des coûts, évolution des revenus, et d'être capable d'investir en logique financière. Pour l'instant, on y va encore là, un peu à l'aveugle.
Mais quel mauvais timing, si tu me passes l'expression, pour rentrer en bourse avec le conflit entre les États-Unis et la Chine.
L'avantage, par contre, c'est que si le conflit se remet, si on s'en remet du conflit d'ici 2-3 semaines, mais évidemment, Uber va profiter aussi de la remontée, comme tous les autres sites qui ont perdu de façon... plus arbitraire aujourd'hui.
Ah, c'est dans l'intérêt et de Pékin et de Washington de finir par s'entendre, ça c'est sûr. Les travailleurs d'expérience, le gouvernement qui est un peu impuissant, mais le gouvernement, le ministre, a fait une déclaration d'ailleurs extrêmement intéressante, souhaitant que Québec puisse garder plus de travailleurs de 60 ans sur le marché du travail.
Oui, et là, tout le monde y va de sa stratégie et tout le monde y va de ses propositions. J'écoutais aujourd'hui à M. Drainville et... Luc Lavoie, ah, pourquoi les heures supplémentaires seraient pas taxées différemment, tu sais. Attention. Voici une première proposition qui est dangereuse. Mettons que Paul, t'es salarié. T'es payé 40 heures par semaine. C'est-à-dire que t'es payé à l'année, mais ton salaire varie pas en fonction du nombre d'heures que tu fais. T'es cadre. Si on commence à rémunérer le temps supplémentaire de façon moins taxée, hey, tu vas t'en virer de bord avec ton employeur, tu vas dire, hey, paye-moi à l'heure. Mon temps est plus élevé, va devenir du temps supplémentaire. Je le faisais bénévolement anyway, et là, je vais avoir moins d'impôts à payer. Après ça, il y a des gens qui ne déclaraient pas toutes leurs heures qui vont se mettre à en déclarer. Il va y avoir des magouilles entre employeurs et employés de PME pour dire « Hey, mais paye-moi en overtime, c'est moins taxé, puis moi, je vais te donner du temps autrement. » Donc, mettre des mesures en fonction du temps et non pas du dollar, ça crée un problème. On peut pas taxer les gens en fonction de la nature. T'sais. Et si on regarde les propositions du gouvernement... Évidemment, on nous parle là, des crédits d'impôt pour travailleurs d'expérience, les avantages. Mais la fiscalité canadienne, Paul, nous fait mal. Je te donne plein d'exemples. Tu peux fiscalement retarder ta pension de vieillesse, si tu veux, au fédéral. Tu peux retarder ton régime des rentes du Québec. Mm-hmm. Tu peux décaisser ton REER plus tard. Mais chaque fois que tu retardes ça, tu retardes l'amortissement de tes revenus. Donc, l'amortissement fiscal. C'est-à-dire que si le travailleur d'expérience décide de rester sur le marché du travail plus longtemps, il décide de s'imposer donc plus, ça retarde potentiellement sa capacité à retirer des REER avec un taux d'impôt faible, et donc il s'approche de plus en plus de la date de son faire obligatoire.
71 ans.
Exact. Et donc, de s'imposer. Donc, la stratégie fiscale canadienne,
ouais,
c'est d'atteindre à peu près un apogée à 45-50 ans de ta capacité à te générer du salaire et de commencer à ce moment-là à amortir des retraits de façon à payer moins d'impôts possible. Alors, si on dit au travailleur d'expérience, « Hey, retarde ton impôt le plus possible avec, contre un petit crédit d'impôt », ce que le travailleur doit se questionner, c'est « Je vais-tu manger à claque au bout du compte en perdant mon supplément de revenu garanti? Est-ce que je vais me perdre de l'avantage en finalement en étant imposé plus sur mon RRQ puis ma sécurité de vieillesse? Est-ce que mon REER, je vais manger un coup en devant le retirer à 70 ans parce que je vais avoir retravaillé plus longtemps et je vais l'avoir moins, excuse-moi, là, aplati sur plusieurs années?
Ouais. »
Donc, le cadeau fiscal immédiat, va-t-il me revenir d'en face dans 4-5 ans?
Très bonne question. Mais c'est vrai. Parce que tu passes d'un statut où tu travailles, il y a des gens qui travaillent encore très fort, régulièrement, salariés, au-delà de 70 ans.
Exact. Et, dans le fond, à un moment donné, ta retraite, tu vas payer de l'impôt, mais si c'est pour le bonheur. Et là, on arrive là.
Ouais.
Il y a deux raisons pour lesquelles tu continues à travailler qui ne sont pas économiques. T'sais, qui ne sont pas pour le crédit d'impôt. Mmh. OK? Un, t'aimes ton travail, tu veux t'amuser. Donc ça, un crédit d'impôt ne change pas ton travail. Et la deuxième chose, c'est que t'as besoin absolument de travailler, c'est-à-dire économiquement, t'as besoin de l'argent parce que t'en as pas assez.
C'est
les deux choses qui te font vraiment travailler après 60-65 ans. Mais si c'est le crédit d'impôt qui te ramène au travail, tu sais, une coupe de 100$ qui font en sorte que tu passes ton année à travailler... En toi pis moi, Paul, on jase. J'espère que ça sera pas matériel dans ma décision rendue là.
Ouais.
Et même si le gouvernement dit on émet des centaines de millions sur la population totale, c'est un petit bonbon, mais la question, c'est que le gouvernement est complètement impuissant présentement. On se trouve dans des régions du Québec où faut que tu payes 22$ à un étudiant d'été pour être capable d'avoir quelqu'un qui travaille dans ton commerce. Mmh. Et il faut que tu te demandes est-ce que ça vaut la peine. Et d'un autre côté, il y a dans 10-15 ans, on s'en vient avec un mur épouvantable où des entreprises qui existent, pas des entreprises, mais des emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus. Donc, on envoie un signal qu'on a besoin de main-d'œuvre, qu'il y a une pénurie sur des emplois qui n'existeront plus un jour. Alors, ça crée une espèce de dissonance cognitive dans nos cerveaux de jeunes qui se disent, ah, il n'y en a pas de problème avec l'emploi.
Ouais.
On a un double problème.
Ouais.
Il n'y a pas assez de monde pour l'instant.
Exact.
Et les emplois qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus.
Et ça vaut-tu la peine de travailler au-delà d'une certaine limite si tu as pu mettre de l'argent de côté?
Moi, je dis, si vous êtes bien nanti, vous avez un bon régime de retraite et que vous n'allez pas retourner travailler parce que vous aimez ça, là, calculez comme il faut. Tu ne vas pas y retourner pour un crédit. Si tu as 500-600 000 dans ton compte, 1 million, ça paraît beaucoup, mais il y a beaucoup de régimes de retraite qui génèrent des centaines de milliers de dollars de revenus. Posez-vous la question. Est-ce que la fiscalité me rentre dans le corps?
Ben, oui ça. Ou non? Si le problème, c'est que si tu vas chercher un bon gros salaire encore jusqu'à 70 ans et puis qu'en même temps, tu t'en vas vers la conversion de tes avoirs, de tes REER en fer... Hey, ça va te faire un gros rapport d'impôt à la fin de l'année, ça.
Exact. Et ajoute, Paul, que là, ça ajoute encore plus l'importance du CELI. Quand tu regardes ça, puis que tu as un CELI, tu te dis, hey, le CELI, il est non imposable quand je retire.
Ouais.
Donc, quand je vais vendre ma maison, je vais remplir mon CELI qui est pas plein parce que ça va me permettre de moduler mon revenu de retraite, aller chercher le crédit d'impôt du gouvernement, puis en même temps, ne pas être pénalisé sur mes retraits que j'utilise parce que c'est pas imposable et ça ne compte pas dans le calcul du supplément de revenu de garantie non plus.
À demain, merci.
À demain.